aujourd'hui, on va parler de choses super intéressantes. On a des invités géniaux, hein, René, Frédéric, que je vais vous présenter tout à l'heure. Je vais vérifier que tout se passe bien et on va pouvoir démarrer dans quelques secondes ensemble. Hop. J'espère que vous allez bien. Cet après-midi, hein, début du mois de juillet, je sais que ça se calme un petit peu, les choses se passent un petit peu différent. J'ai un petit chat privé. Hop, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, nickel. Bon, bah écoute, ça a l'air d'être parfait. Super, merci Fred pour l'info. Je sais que ça lague un petit peu, mais ça devrait aller. Ça devrait aller, on va s'en sortir, c'est les joies du direct. Alors, quelques petits rappels avant de commencer, tout simple. Comment ça va se passer? Il va y avoir un débat, un peu un atelier, vous allez voir. Premièrement, on va débattre un petit peu de choses super intéressantes autour de l'intelligence artificielle. Restez bien d'ailleurs jusqu'à la fin, parce qu'on va vous présenter un outil avec mon acolyte Grégoire qui pourrait fortement vous aider, qui va vous aider notamment à générer des super contenus en envoyant un simple email sans jamais avoir à ouvrir une intelligence artificielle quelconque ou un outil quelconque. Donc, les premiers utilisateurs de cet outil sont vraiment très, très heureux de l'utiliser. Je pense que ça devrait vous plaire. Petit rappel, si vous voulez participer, on est en direct donc sur Facebook, sur LinkedIn et normalement sur YouTube également. Si vous voulez participer, c'est super simple, vous pouvez commenter directement dans le chat, vous pouvez poser vos questions, on prendra les questions au fur et à mesure, au fil de l'eau, on en prendra également pas mal à la fin, comme à chaque fois. Je remercie d'ailleurs d'avance tous ceux qui participeront et qui partageront ce direct. Pour vous, c'est rapide, pour nous, ça veut dire beaucoup, ça nous aide énormément à faire, à continuer ce format qu'on fait tous les mois depuis décembre maintenant. Et également, un petit coucou à toutes les personnes qui nous regarderont en replay. Je sais que tout le monde ne peut pas être là à 17h aujourd'hui. Alors, le petit plan du débat, avant de vous présenter les intervenants, quelques points très simples et très efficaces. On va déjà parler de l'accélération. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de sous-estimer l'IA dans 3 ans et de la surestimer aujourd'hui? Question intéressante. Quelles sont les plus grandes peurs dans l'intelligence artificielle qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos intervenants? Quels sont également nos plus grands rêves? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir rapidement dans l'IA dans les prochains mois ou les prochaines années? L'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises, notamment les TPE, PME, qu'est-ce qu'on peut faire avec concrètement? On va avoir des super exemples concrets, hein, c'est pour ça que je suis très content d'accueillir aujourd'hui Frédéric et René. Qui ont les mains dans le cambouis, hein, littéralement, et qui sont en permanence auprès des TPE PME, nous aussi d'ailleurs avec Grégoire. Donc on va parler de l'IA dans le service client, notamment avec Frédéric. On va parler également de l'IA dans le e-commerce. Et à la fin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vous présenter notre outil qui vous permet de créer des contenus en envoyant un simple email. Donc, restez bien jusqu'au bout. Merci à vous d'être là. Je vois que vous êtes en train de vous connecter et ça, c'est plutôt cool. Alors du coup, je vais faire monter mes deux intervenants et je vais vous les présenter tout de suite. Hop. Donc, comme vous les voyez, hein, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, Frédéric Canevet ou Canevet, je ne sais jamais comment on dit, me le dira tout à l'heure.
Canevet, tu peux le dire.
Responsable des projets digitaux chez Eloquent, qui est un éditeur de logiciels, de centre de contact et d'enquête de satisfaction. Il est aussi consultant sur un blog que je vous conseille, hein, c'est un blog qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle conseilmarketing.com. Qui a même, je pense, démarré avant monter-son-business.com, ce qui est pas mal. Auteur de plusieurs livres aussi, sur le growth hacking notamment, et les bots. Donc, très heureux. Merci Frédéric d'être là avec nous aujourd'hui.
Bah, c'est un plaisir. Hein. Rémi, on se connaît depuis déjà au moins 10-15 ans. Donc, c'est bien de se faire un petit live sur l'IA, parce que c'est un petit peu le sujet à la mode. Et comme tu le disais, l'ère des blogs, c'était un petit peu ce qu'il y avait quelques années. L'IA a un petit peu changé la donne. Et ça va encore changer la donne quand il y aura la recherche Google, anciennement SGE, qui va intégrer l'IA direct. Et là... ça va être encore un coup de plus. Un coup de
on va encore nous dire que le SEO est mort, hein, que le référencement naturel est mort pour la millième fois.
Ça fait combien de fois qu'il est mort, le SEO?
Oh, là, sincèrement, j'ai discuté avec pas mal de dinosaures du web qui ont des blogs, et la plupart d'entre eux ont quand même une réduction de trafic qui va, pour les meilleurs, à 20-25%, et pour la plupart, entre 50 et 60% du trafic qui a disparu depuis l'arrivée de l'IA, la génération automatique des contenus. Donc, ça a quand même donné un petit coup, un coup de pied dans la fourmilière.
Ça va être intéressant. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Je vais également présenter René. Donc, René Coton, qui est cofondateur du groupe WeezyShop, qui est une solution SaaS pour les boutiques e-commerce. Il est également éditeur d'une newsletter sur l'IA qu'on peut retrouver sur rené-coton.fr. Salut, René.
Salut et merci beaucoup pour ton invitation Rémi. Je pense qu'on se connaît aussi depuis plus de 10 ans tous les deux, hein, ça fait très longtemps. Et je recommande aussi le blog de Frédéric, hein, parce que moi, de toute la vie de WeezyShop, j'ai toujours suivi ton blog Frédéric. Donc, voilà.
Je vous enverrai le chèque après.
En tout cas, il y a trois dinosaures autour de la table, c'est sympa.
Ouais, c'est ça. Je vais me présenter rapidement aussi pour ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas. Je suis indépendant depuis 2003. Et depuis 2010, j'accompagne des entreprises à développer leur business. J'ai un blog aussi qui existe depuis un moment qui s'appelle montersonbusiness.com. Et avec Grégoire, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, tout à l'heure, on a créé Copilot IA, qui a pour but d'aider les entreprises à doubler leur chiffre d'affaires grâce à l'IA. Et on est content de partager ces grands débats chaque mois. On a des super intervenants à chaque fois. Et là, je suis très content de vous avoir tous les deux. Voilà, et c'est parti. On dit bonjour également à Jean, Amélie, Frédéric et à tous ceux qui participeront et partageront ce live. Merci à vous. Je vous propose de commencer par un truc tout simple qui est dans le... Voilà. Question toute simple. Est-ce qu'on n'est pas en train de surestimer l'intelligence artificielle aujourd'hui et de la sous-estimer dans 3 ans? Que pensez-vous de ça?
Ok, je commence.
Ouais, allez, c'est parti.
Peut-être qu'on est en train. Enfin, tout dépend de où tu te positionnes, à mes yeux. Parce que je pense que le grand public est en train de surestimer l'IA aujourd'hui. Surtout par le terme, hein. L'intelligence artificielle, ça alimente plein de fantasmes sur le côté intelligence qui pourrait prendre le contrôle et remplacer les gens, ce qu'on est loin d'avoir aujourd'hui. Peut-être dans 3 ans, comme tu dis Rémi, on ne sait pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui surestiment l'IA par méconnaissance aujourd'hui et d'autres personnes qui, au contraire, ne voient pas du tout ce que l'on pourrait faire avec, alors que je rejoins totalement ce que tu fais dans ton business, Rémi. Aujourd'hui, je ne vois pas un seul business autour de moi où l'intelligence artificielle ne peut pas venir aider. Pour moi, c'est comme l'arrivée de l'ordinateur. Ça a mis du temps, hein, l'ordi, pour venir dans les entreprises. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul endroit où on ne voit pas un ordinateur pour travailler. C'est ultra important. Voilà. Maintenant, la boule de cristal et savoir qu'est-ce que sera l'IA dans 3 ans, je t'avoue, je ne saurais pas quoi dire. Si ce n'est qu'on voit les choses tellement avancer vite ces 2 dernières années, que si on est sur la même vitesse, on risque d'être très surpris. Est-ce qu'on va réussir à avoir une intelligence artificielle générale, qui est un peu le Saint Graal que tout le monde recherche, une intelligence artificielle qui serait capable de raisonner, qui serait pas capable d'apprendre au fur et à mesure, de faire de l'apprentissage comme ça, comme peut faire une intelligence humaine? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est vers quoi les différentes entreprises qui travaillent dessus essayent de tendre. C'est le Saint Graal.
Ouais. Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Ben, en fait, c'est simple. Moi, quand j'ai écrit mon bouquin « Réussir son projet de chatbot » en 2017, je disais, ben voilà, un bot, tout simplement, c'est comme un enfant de 6 ans. Tu lui dis exactement ce qu'il faut faire et il fera exactement ce qu'il faut faire. Mais si tu sors de la consigne, paf, il saura pas faire. Si tu dis pas avant de nettoyer les assiettes, avant de les mettre au lave-vaisselle, ben, il va mettre direct. Ça, c'était le chatbot en IA classique. L'IA génératif, on est arrivé sur l'équivalent d'un stagiaire ou d'un alternant qui a 18 ans, c'est-à-dire qu'il sait énormément de choses. Il a le cerveau qui est bourré de trucs, mais par contre, il n'a pas l'expertise. Des fois, il peut se tromper parce qu'il ne connaît pas suffisamment le métier. Et donc là, il faut vraiment se dire que voilà, l'intelligence artificielle, on ne va pas cloner pour l'instant encore quelqu'un avec toute sa connaissance, mais par contre, on a quelqu'un à votre disposition qui, si tu lui donnes des bonnes instructions, donc le bon prompt, hein, si tu sais ses limites et ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, là, facilement, tu arrives quand même à avoir quelqu'un qui peut faire des choses, et comme tu as dit, Rémi, qui peut être, entre guillemets, ton assistant marketing pour toi. Et moi, je l'ai vu, à titre personnel, j'avais une assistante virtuelle qui était là pour faire des tâches très simples, qui était résumer des vidéos YouTube, me faire des préparation d'articles de blog, etc., etc. Et ben en fait, je l'ai remplacé par l'IA. Donc, il y a eu vraiment un impact direct. Et au-delà de ça, pour mon travail à moi, dans le domaine de tout ce qui est trading des callbots et des chatbots, il y a aussi un impact immédiat. Auparavant, il fallait lui faire manger différentes variations de phrases et c'était une personne qui le faisait. Là, en fait, avec l'IA génératif, tu dis, donne-moi 10 variantes ou 10 manières de dire je veux ma facture et tu l'alimentes. Et ça te fait gagner un temps de malade. Et c'est vrai qu'il y a des métiers comme ça qui ont totalement été bouleversés. Je suis de rédacteur SEO, tu vois, en l'espace de 3-6 mois, ça a mis énormément de gens sur le carreau. Et René, toi, tu es le pro là-dessus pour la rédaction de contenu, de fichiers e-commerce. J'ai vu ton application qui est super sympa. Et ben en fait, ça prend du job à des gens qui avaient des métiers un petit peu simples. Et désormais, en fait, ça remplace, ça permet d'être plus efficace et de se concentrer justement sur la partie valeur ajoutée. C'est ce qu'on dit, nous. Notre philosophie, elle est là. C'est qu'en fait, l'IA, les gens surestiment, comme tu dis, ce qu'elle peut faire parce que c'est un enfant de 18 ans, enfin, c'est un adulte de 18 ans, c'est plus un enfant de 6 ans. Mais il faut pas non plus dire qu'il sait tout faire. C'est comme un alternant que tu as chez toi dans l'entreprise. Tu vas pas lui demander de faire le boulot d'un senior. Tu vas pas lui demander de faire quelque chose qui maîtrise pas. Il est capable de faire des choses bien si on se trompe pas. Et nous, on le voit bien. Il faut être, raisonnable dans ce qu'on va lui demander. Il y a des choses qui vont pouvoir être automatisées, si tu veux, on en parlera juste après. Il y a des choses qu'il faut surtout pas passer à ChatGPT parce qu'il n'est pas capable de le faire. Tu donnerais pas les clés de ta boîte, tu lui demanderais pas de faire une stratégie marketing à un alternant de 18 ans, tu lui demanderas de t'aider, de donner des idées, mais tu vas pas lui laisser les clés de ta boîte pour faire ton plan marketing, quoi.
Je rebondis un peu sur ce que vous dites, c'est vrai que c'est intéressant. Par exemple, sur l'impact sur les métiers, effectivement, on le voit bien sur les plateformes notamment de freelance, hein, ceux qui font par exemple du graphisme, ceux qui font de la rédaction, effectivement, du marketing en général, de la communication, etc. Il y a un impact direct, hein. Moi, j'ai pu le voir, des gens qui habituellement, avec qui je travaille habituellement, qui m'ont dit, ouais, il y a vraiment une baisse d'activité qui est très claire et très évidente. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, pourquoi je vais faire appel à un humain? Je pourrais tout à fait gérer ça de manière automatique, entre guillemets. Alors, il y en a qui en reviennent aussi, hein, parce qu'ils ont du mal à comprendre comment réellement bien utiliser les IA. Ils n'ont pas forcément les résultats qu'ils souhaitent ou ils se rendent compte aussi que il y a une valeur aussi, il y a une valeur humaine qui est importante. Et sur la partie, sur surestimer, en fait, c'est assez. Il y a quelques jours là, par exemple hier, hein, pour tu vois, un truc très simple et très rapide, très récent, Runway, donc qui est une entreprise qui fait de la vidéo par IA, qui a lancé Génération 3, donc une nouvelle génération qui permet de faire des vidéos à partir d'un simple texte. Alors, tout le monde en a parlé, donc je me suis dit, bon, on y va. Moi qui suis à fond en plus dans la vidéo, je me suis dit, on va regarder. J'ai fait pas mal de tests. Honnêtement, on est très, très loin de ce qui nous est présenté pour l'instant. J'ai été vraiment déçu. Pour le moment, je suis encore très, très déçu. Il y a des choses très intéressantes à faire sur des tout petits formats de vidéos, sur des trucs extrêmement simples, etc. Mais par exemple, un truc dingue, j'ai dû passer peut-être 20 minutes pour faire comprendre à l'IA que je ne voulais qu'une seule tour Eiffel à Paris. Il n'arrêtait pas d'en afficher deux. Et je peux t'assurer que c'est chiant. Parce que quand tu payes au crédit, c'est pas. Voilà, hein, c'est énervant.
Ouais. Alors, par contre, tu as des trucs qui sont par contre exceptionnels. Là, oui. Par exemple, tu vois, moi, je suis hyper impressionné par les outils en fait de génération de vidéos, de clonage vidéo. Par exemple, oui. Tu connais iGen. Sincèrement, iGen plus Eleven Labs, j'ai fait des clones de moi-même et je suis. On voit encore la différence parce qu'il y a le mouvement des mains, il y a l'intonation, parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment de variété dans la captation. Parce que généralement, tu te mets devant ta caméra pendant une minute ou deux.
Enfin, c'est deux minutes, donc c'est vrai que c'est court.
Ouais, et puis tu as un peu tendance à exagérer pour mettre des mouvements de la main, donc ça se voit. Mais par contre, tu vois, les vidéos à la TikTok qui nécessitent pour l'instant quand même pas mal de travail si tu veux avoir un truc un petit peu sympa. Une fois que tu t'es cloné toi avec un fond, tu peux très bien faire tes teasers. Moi, j'en ai fait comme ça un ou deux, des teasers parce que j'avais pas trop le temps. Et c'est vrai que des fois, quand tu as pas mal d'événements, c'est bien de pouvoir faire des petits teasers, des petits trucs expliqués. Et c'est intéressant. Et je trouve que c'est des prémices qui sont vraiment intéressants sur le sujet. Le seul truc, c'est cet aspect un peu robotisé, puis le coût. C'est quand même 2 € la minute. 2 € la minute, quand moi, je peux me faire avec ma petite caméra, mon smartphone. On n'est pas encore là du côté du ROI. Mais tu vois, il y avait une étude qui était très intéressante qui a été faite par Nel Patel dans le domaine en fait de la rédaction. Tu vois, on en parlait tout à l'heure de la rédaction SEO. Et ils avaient comparé en fait la rédaction qui avait été faite par ChatGPT avec de la rédaction qui avait été faite par un humain. Et ils avaient rédigé en fait donc un certain nombre de contenus. Ils avaient comparé après le nombre de visites qui avaient été faites à la fois par les contenus IA et par les contenus générés par les humains. Et ce qui était intéressant, c'est que après bien sûr le ROI global de ces contenus-là. Et ce qui était intéressant, tu vois, c'est qu'ils ont comparé, c'est que le trafic généré par minute consacrée à la rédaction. En faisant en fait du contenu généré par l'IA, grosso modo, tu avais 3,25 visiteurs par minute. Avec un contenu humain, tu étais à 4,10 par minute. Ce qui est quand même en fait un. Tu sais que l'humain est plus performant, mais ça restait quand même assez proche. Parce qu'en fait, bien entendu.
Ouais.
Comment ?
Par rapport au temps investi aussi.
Par rapport au temps investi, ouais. C'était quand même pas mal. Alors bien sûr, il faut pas caricaturer des choses parce que le contenu généré par l'IA est beaucoup moins efficace, génère moins de trafic, ta 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 ta. Mais en fait, ils ont vu qu'un contenu publié par l'IA, c'était 16 minutes, 69 minutes par une personne. Ils ont fait 744 contenus publiés sur 64 sites et ils ont vu que l'humain génère 5 fois plus de trafic que le contenu automatisé, mais en fait, si tu rapportes ça à la minute de réalisation, c'est quand même assez étonnant, quoi. Donc leur bilan au global, hein, vous pouvez aller regarder sur le blog de Ned Patel, vous verrez l'étude en anglais, mais ça donne quand même un petit coup de projecteur sur ce que ça pourrait entraîner dans les années à venir.
Ah, on l'a perdu. Coupé, Frédéric, je ne sais pas ce qui s'est passé.
En attendant qu'ils reviennent, tiens, je vais donner un exemple d'une utilisation que nous, on a fait derrière. On a parlé des gènes. Donc, AgeGen, c'est vraiment très bien pour faire de la génération, mais c'est aussi très bien pour faire de la traduction de vidéos que tu as déjà réalisées. Et donc, pour Pizzi, on a créé une vidéo de présentation, une très belle vidéo. On a tourné ça dans une boutique pour mettre en avant comment ça fonctionne et tout. Et en fait, on avait besoin de le mettre en anglais. Eh ben, soit il aurait fallu retourner la totalité des choses en le faisant en anglais, soit il aurait fallu le doubler derrière et encore fallait-il que ça soit de qualité. Eh ben, on a passé la vidéo dans AgeGen, qui a passé cette vidéo en anglais et on a un résultat qui est très bon. Alors oui, on aurait pu faire sûrement mieux si on avait tout retourné, mais là, en fait, on a deux vidéos qui sont exactement les mêmes, une en français et une en anglais, et qui mettent en avant le produit de la même façon, avec une traduction, et on ne voit rien du tout au niveau des lèvres sur
la mise en avant. La charge de travail qui aurait été nécessaire est complètement... C'est du délire. Et les coûts engendrés, évidemment.
Mmh, tout à fait.
Donc ouais, je comprends tout à fait. Non, c'est intéressant. Bah, après, moi, j'ai vu un mec aussi très intéressant sur TikTok, justement, et sur les Reels, donc sur Instagram, les formats courts, qui avait justement utilisé son avatar AgeGen et Eleven Labs, hein, donc deux outils qui permettent de créer un avatar qui fonctionne plutôt bien. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait la vidéo en deux, en fait, et il mettait son écran, en fait, sur la deuxième partie. Du coup, tu voyais moins les petits défauts de son avatar. Mmh. Mais c'est vrai que quand je vois ce qu'on arrive déjà à faire aujourd'hui, je n'ose pas imaginer ce que ça peut être dans 2 ou 3 ans. Et il commence à y avoir des vidéos où tu te dis, attends, c'est un vrai gars ou pas ? Tu sais, t'arrives plus à... Tu te dis, si maintenant tu commences à te poser la question, on imagine dans 3 ans ce que ça va être, quoi.
C'est sûr.
Et dans le même temps, alors je ne sais pas, d'ailleurs je voulais vous poser cette question-là, moi j'accompagne pas mal d'entreprises, je forme dans les entreprises, au sein des entreprises aussi, et j'ai vraiment deux types de personnes, on va dire, allez peut-être même trois, ceux qui sont à fond dedans, qui veulent tout tester, qui veulent tout utiliser, qui veulent tout intégrer peut-être même trop vite, ceux qui sont un peu entre les deux, et ceux qui sont vraiment réfractaires. Est-ce qu'on, en fait c'est toujours la même courbe hein, technologique, mais est-ce que vous ressentez la même chose, vous, du côté des entreprises avec qui vous travaillez ?
Je pense que oui, c'est à peu près la même chose, mais j'ai l'impression que les personnes qui sont totalement réfractaires, maintenant, si tu te poses avec elles un petit moment, que tu leur montres ce qui est possible, tu leur montres les limites actuelles, hein, parce que ça va bouger, mais jusqu'où on peut aller avec, j'ai l'impression qu'assez rapidement, tu peux leur montrer où est-ce que se trouve la plus-value d'utiliser de l'intelligence artificielle. Donc, je trouve que plus le temps passe, moins c'est difficile de convaincre une personne qui est réticente. Après, oui, il y a des personnes qui ont l'impression qu'on va pouvoir tout faire avec l'intelligence artificielle. Et là, c'est trop défaut, c'est d'arriver à dire, attendons, prenons les choses, voyons où est-ce qu'il y a de la plus-value avec l'intelligence artificielle et n'oublions pas le côté humain. Et on en parlera peut-être plus tard dans des cas qu'on a eu chez nous, mais on s'est rendu compte que on a réussi grâce à l'intelligence artificielle à mettre plus d'humains. Et c'est assez dingue hein, de dire ça comme ça, mais en fait les deux vont de pair. À mes yeux, si on fait bien les choses, on ne perd pas l'humain, on le rajoute différemment en concomitance avec l'IA.
Moi, je me rends compte que quand tu mixes les deux, t'as vraiment une puissance. C'est tout est démultiplié en fait.
C'est ça.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Alors nous, de notre côté, on voit plutôt des tiers. Par exemple, je donnerais les devs, les développeurs. Grosso modo, tu as un tiers qui accepte en fait, d'utiliser l'IA et qui s'en sert tout le temps. Tu as un tiers qui est réfractaire et tu as un tiers qui demande à être convaincu. Et ce qui est marrant, c'est que le tiers qui utilisent l'IA sont les plus productifs. Mais généralement, ce sont plutôt des jeunes ou des gens qui sont technophiles. Les gens qui sont un petit peu à l'ancienne, qui disent « Non, mais mon code, il est super propre et tout ça. » Et c'est le syndrome HP, Not Made Here, ou IBM. C'est-à-dire que ça n'a pas été fait par lui, donc ça ne peut jamais être bon, aussi bon que son code. Et c'est vrai qu'on en a plusieurs comme ça qui sont, à chaque fois, c'est simple, ils veulent toujours refaire la roue. Et c'est assez pénible, parce que même, des fois, ils refont le code de leurs collègues en disant « Non, mais… » je peux optimiser le truc, tu vois, alors que ça ne sert à rien. Il faut mieux. Moi, en gros hacking, tu vois, c'est toujours fait plutôt que parfait, quoi.
Ouais. Bien sûr. Mais ça, c'est un débat qu'il y a tout le temps dans les équipes. Ça me fait toujours rire. Moi, j'étais, avant d'être entrepreneur, j'étais en agence web et les débats qu'il pouvait y avoir entre les devs et aussi entre les devs et les marketeurs, qui souvent se respectaient moyennement, on va dire, c'est du délire. Et là, avec l'IA, je trouve que c'est encore plus intéressant parce que. Il y a en fait ce protectionnisme de dire « Non, mais attends, là, ton code, c'est de la merde. Ouais, mais tu disais déjà ça de tes collègues humains, donc tu vois, il faut peut-être que tu mettes de l'eau dans ton vin aussi, quoi.
» Ouais, je suis tout à fait d'accord.
C'est intéressant. J'avais une question aussi. Pour vous, aujourd'hui, là, votre plus grande peur autour de l'IA, ce serait quoi? Si vous deviez, voilà, s'il y avait vraiment le scénario catastrophe, ce serait quoi pour vous aujourd'hui qui arriverait dans les prochaines semaines, les prochains mois?
J'y vais en premier.
Je te laisserai la politesse à chaque fois.
Allez, ok, super. Merci Frédéric. Les plus grandes peurs autour de l'intelligence artificielle. Bon, j'écarte de suite l'histoire de l'intelligence artificielle va tellement se développer qu'elle va nous contrôler et contrôler la planète. Hein. Il y aura toujours une prise électrique à débrancher quelque part. Celle-là, je n'ai pas de plus grand peur au niveau de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il faut rassurer les gens sur ce genre de choses. Non, moi, ce qui m'a fait peur dernièrement, c'est et que je pense que ça peut-être accélérer ces derniers temps, ces prochains temps, c'est ces entreprises qui communiquent en disant on a divisé par trois nos équipes grâce à l'intelligence artificielle. J'ai pu remplacer des personnes chez moi grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, pour moi, ça prouve une méconnaissance complète de ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et j'ai peur que d'autres entreprises s'engouffrent là-dedans. Et déjà, bon, fasse n'importe quoi premièrement, mais en plus donne une image détestable à l'intelligence artificielle qu'elle ne devrait pas avoir. Et clairement, si l'intelligence artificielle permet d'automatiser plein de choses chez toi que avant tu faisais faire à du personnel, bah, utilise ton personnel pour aller plus loin que ce qu'elle faisait avant, tout simplement. Et donc, ton entreprise va être plus productive, va pouvoir aller plus loin. Donc voilà, moi, la vraie grande peur que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on continue à avoir ce genre d'annonces d'entreprises qui disent bah moi, grâce à l'IA, maintenant, j'ai pu me séparer de mes collaborateurs, alors que je vois pas pourquoi ils feraient ça.
C'est très juste vrai que nous, on le voit aussi sur cette partie-là. Mais nous, ce qu'on dit, c'est OK, tu vas automatiser des tâches, mais tu vas en fait remettre après l'humain au bon moment. En fait, nous, on distingue quatre types en fait, d'interactions. Tu as les interactions polluantes dans la relation client. C'est-à-dire, c'est des interactions qui ne sont pas adressées à toi. Par exemple, tes fournisseurs d'énergie, comme Enedis, les gens te disent ma facture d'électricité, elle a augmenté. Ah, ben non, mais c'est pas moi qui gère moi, je gère le réseau. Vois avec ton fournisseur. Ou des gens qui disent tiens, à un assureur, je veux faire une déclaration, alors qu'en fait, c'est leur courtier qu'il faut contacter. Donc, ces interactions polluantes, le bot, en fait, en filtrage, en callbot, il permet de filtrer cette demande. Après, tu as les interactions à faible valeur ajoutée ou automatisables ou qui peuvent être faites 24/24. Là, en fait, ben, faut les faire par un bot. Par exemple, quand tu dois faire une déclaration d'incident, actuellement, un accident ou peu importe, ce qui se passe, c'est que tu es obligé d'attendre que les bureaux de ton assureur soient ouverts de lendemain. Et en plus, tu as un délai de 3 jours. Donc, le week-end, tu dois pas tarder. Alors que ça peut être fait par un bot parce que généralement le mec qu'est-ce qu'il fait, il va juste prendre quelques infos et c'est tout et puis il va dire ouais, vous allez être rappelé par un conseiller. Donc ça c'est des trucs à faible valeur ajoutée ou qui rajoute de la valeur quand on le fait en dehors des heures d'ouverture. En revanche, tu as des interactions qui doivent absolument rester par des humains et là au contraire il faut que les gens prennent le temps ce temps qu'on dégage un peu avec l'automatisation, ce temps, en fait, doit permettre d'écouter plus. Et on a un client qui s'appelle la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui s'occupe, en fait, des fonctionnaires, les agents des mairies, etc. Et en fait, ils ont ce programme qui s'appelle la relation client attentionnée. C'est-à-dire que quand ils ont les gens au téléphone, dans leur politique, c'est tu dois prendre le temps de répondre au client. Bien sûr, à la fin, tu vas lui poser une petite question en disant, bah, au fait, est-ce que vous avez besoin d'autre chose, etc. Et on l'a vu avec des clients dans l'énergie aussi, c'est que quand tu donnes un conseil pour d'économie d'énergie ou un conseil pour mieux gérer ton produit ou n'importe quoi, et en fait, ta note NPS, ta satisfaction, augmente de manière drastique. Donc, ce truc-là, déjà, tu prends un peu plus de temps. Et eux, ils sont allés encore plus loin. C'est ce qu'ils appellent la relation client attentionnée. C'est-à-dire que tu vas parler à la personne et tu vas aller au-delà de sa demande. Et tu vas dire, mais au fait, tiens, est-ce que vous saviez que vous pouvez faire ceci, cela? Et en fait, ils arrivent comme ça à placer des produits soit gratuits, soit payants. Par exemple, tu dis, tiens, voilà, je viens de déclarer mes deux jumelles qui viennent de naître parce que ma femme a accouché. Ils vont dire, bon, ok, d'accord, c'est enregistré. Mais en plus, ils vont dire, est-ce que vous saviez que, en tant que, si vous avez des jumelles, vous avez la possibilité, en fait, d'avoir, je crois que c'est 16 heures de ménage. En plus, il faut faire votre déclaration auprès de votre caisse régionale ou des choses comme ça. Donc, ils vont aller au-delà de ça. Et après, le temps dégagé, en plus, donc ça, c'est donner plus de temps, mais tu peux aussi dégager pour faire du proactif. C'est-à-dire que tu vas aller rappeler tes clients insatisfaits, tu vas aller rappeler tes clients promoteurs et tu vas essayer justement de dire, tiens, est-ce que vous pouvez faire un témoignage ou des choses comme ça, ou essayer de leur vendre plus. Donc voilà, du proactif, c'est aussi, nous, on le voit chez un client dans le domaine de l'assurance, y a des gens, en fait, qui en fait, ne sont pas rappelés ou qui ne voient pas la valeur du contrat. Alors que si tu les appelles dans le premier mois, tu vois que le taux de résiliation est vraiment diminué. Alors après, tu peux aussi l'automatiser, mais de manière intelligente. Par exemple, tu as le dépôt de message vocal sur le répondeur automatique, enfin, le répondeur du mobile. Ça, c'est pas du bot, mais c'est d'automatisation. Tu peux donc enregistrer ta voix, déposer sur ton mobile, et ça, en fait, on voit que ça te permet à peu près d'avoir deux fois plus de réponses sans quête de SAT et que ta deuxième commande arrive plus rapidement. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. Donc, l'humain au bon moment, ça, c'est important. Alors donc, comme tu disais, la plus grande peur, c'est automatiser pour automatiser sans passer à l'humain. Parfois, ça fait plus de mal que de bien. Et on a vu le cas, par exemple, avec un client qui était Bouygues Telecom Entreprise. Ils avaient mis un callbot, en fait, en amont pour traiter des demandes, mais qui était trop technique. C'est comme pour toi, je pense, René, pour With The Shop, il y a des demandes où les gens, ils ont déjà cherché et c'est pas des novices. Donc, ça sert à rien de leur mettre un bot ou un chatbot qui va les aider à faire quelque chose alors que c'est trop compliqué. Il vaut mieux passer à un humain. Ils avaient dit, ah non, mais à la place de mettre un callbot, en plus au téléphone, toi, c'est plus compliqué, ils ont mis la visio où la personne pouvait montrer avec son téléphone la panne qu'il y avait et la satisfaction était meilleure. Voilà, donc première chose, pas automatiser pour automatiser. Deuxième chose, attention à ne pas penser trop high-tech. Parfois, du low-tech suffit. Par exemple, tu vois, du callbot, c'est quand même... Ou du dans le chatbot, ça va, c'est encore assez low-tech. Mais du callbot au téléphone, c'est quand même des projets qui durent entre 3 et 6 mois. Tu dois vraiment faire du fine-tuning sur le vocabulaire, sur plein de choses. Donc, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors que tu peux faire quelque chose qui est assez proche en termes de satisfaction au téléphone. C'est ce qu'on appelle le SVI visuel. C'est-à-dire que quand la personne l'appelle, elle attend au téléphone et tu lui dis, tiens, il y a 5 minutes d'attente, je t'envoie un SMS, tu peux récupérer ton mot de passe ou tu peux faire ton truc tout seul. Et là, en fait, ça coûte 10 fois moins cher. Ça se met en place en 2-3 semaines. Et donc, tu vois, c'est pas toujours penser high-tech pour high-tech, mais parfois du low-tech suffit. Voilà.
Ouais, non, tout à fait. Bah, moi, la plus grande peur que je peux voir aujourd'hui, c'est la partie manipulation, que ce soit dans les entreprises ou à titre personnel d'ailleurs, parce qu'on voit de la manipulation. On est dans une année électorale mondiale, comme vous le savez. Hein. Et c'est vrai que la manipulation peut être très importante. Par exemple, si des gens mal intentionnés dans l'entreprise mettent, par exemple, dans une base de connaissances IA, des documents qui ne devraient pas y être, on peut avoir des problématiques de perte de données, perte de sécurité, de confidentialité ou même de manipulation. Quelqu'un qui serait mal intentionné pourrait mettre des conneries littéralement dans la base de connaissances, ce qui pourrait poser problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu cette partie-là où les gens veulent absolument y aller. On y va, mais il n'y a pas de garde-fou. Et ça, je me dis, attendez les gars, faites attention quand même. Faites pas n'importe quoi non plus. C'est une technologie qui est géniale, on est d'accord. Par contre, il y a aussi des... Voilà, il faut prendre des précautions, quoi, très clairement.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Rémi. Par exemple, pour du chatbot ou du callbot, les gens, en fait, étaient habitués avec l'IA classique, donc l'IA avant l'IA générative. Tu fais une question, tu fais une réponse et ça ne bouge plus, tu es tranquille. Sauf c'est que ça. Maintenant, avec l'IA générative, bah, il peut y avoir des effets de bord. Nous, on l'a vu chez quelques clients. Au bout de quelques mois, 3 mois, 6 mois, et ben, en fait, ça ne répondait plus exactement pareil parce qu'il y avait une nouvelle FAQ qui avait été enregistrée, mais le bot avait répondu de certaines manières. Et en fait, les gens n'étaient pas habitués à faire un petit suivi. alors que bah, il faut faire un petit suivi pour savoir sur tes intentions les plus importantes, bah, si ça répond bien et si la satisfaction est toujours correcte. Donc tu as un suivi quand même du bot et c'est pas juste une techno tac qui marche et qui fait toute seule le café et le
Alors justement Frédéric, je voulais qu'on, là on va parler un peu de, on va faire deux cas, j'aimerais bien qu'on fasse deux cas spécifiques, un pour toi au niveau du service client et un pour René au niveau du e-commerce. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Je vais donner un exemple moi que j'ai trouvé mais qui est plutôt pour une entreprise assez grande, mais un exemple d'une entreprise peut-être plus petite sur l'intégration de l'IA pour les services clients. Alors moi ce que j'ai vu c'est que Best Western avait introduit, donc ceux qui sont dans l'hôtellerie, hein, avait introduit un callbot récemment qui était vraiment avec l'IA générative. Ils ont amélioré notamment la compréhension des appels de 80 à 100%. Alors, ça m'étonne quand même ce chiffre, mais bon, c'est ce qu'ils disent hein, au service marketing de Best Western en tout cas. Réduisant les délais de traitement pour les clients. Donc du coup, ils ont intégré ça de manière un peu partout. Ils utilisent notamment eAdvise, hein, qui est une belle boîte d'ailleurs française. Je crois qu'ils sont à Nantes. Est-ce que tu as un exemple, toi, concret, justement, d'intégration dans une entreprise de taille moyenne, j'ai envie de dire, ou petite entreprise, ouais, dans la relation client, avec des exemples intéressants de retour, justement, de clients?
Ouais. Alors, je vais juste commenter le truc de Best Western parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils disent on a un taux de compréhension de 100%, ça veut dire en fait que l'intention a été classée de manière correcte. Alors, c'est vrai que 100%, ça me paraît un peu fou parce que tu as toujours des incompréhensions. Ouais. Mais en fait, quand la personne dit par exemple, je veux ma facture, eh ben, je classe bien sur la facture. Voilà. Et le temps de traitement, oui, par contre, ça fait vraiment un impact important. C'est vrai que tu peux réduire le temps de traitement parce que le bot, il est 24-24, 24-7. Alors, pour répondre à ta question, alors j'ai un exemple que j'aime bien citer, c'est celui d'Hublot. Hublot, en fait, c'est une boîte en fait, qui fait un logiciel SaaS qui permet en fait, aux gens qui sont propriétaires de plusieurs logements de gérer en fait toutes leurs formalités administratives. Et donc, il y a Favlien Doueto qui est le founder du blog qui avait fait un petit retour d'expérience là-dessus. Et en fait, eux, auparavant, ils avaient donc sur leur site tout simplement une page contact classique. Et en fait, avec le fil, bien sûr, au fil d'augmentation de leur trafic, et ben en fait, ils se sont dit, mais il faut absolument qu'on mette un bot en place parce qu'ils ont grosso modo 100% de croissance en 12 mois, quoi. Ils doublent leur trafic facilement. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place le bot et ils se sont rendus compte en fait que le bot génère 7 fois plus de contacts que la page contact. Tout simplement parce que les gens, ils voient le petit chat, ils voient la truc qui s'ouvre, alors que ça commence à engager la conversation et discute avec eux. Alors, c'est utilisé pour le marketing et pour le service client. Et eux, ils ont mixé justement, et je trouve que c'est la meilleure chose, mixé IA classique et IA génératif. C'est-à-dire que l'IA classique, c'est tu as les boutons, tu as les réponses, contact, demande de démo, journaliste, etc. Et après, tu as le support avec l'IA générative. Et là, tu peux dire, j'ai un problème avec ma fenêtre, j'ai un problème avec tes trucs. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, tu vois, nombre de clics sur chatbot, ils sont à 4000 par mois ou quelque chose comme ça. Et ils ont donc beaucoup plus de conversions avec leur chatbot. La deuxième chose, c'est qu'ils ont aussi utilisé des IA génératives pour générer de manière automatisée des annonces immobilières. Parce qu'en fait, tu sais comme moi, tout le monde n'est pas forcément un pro du copywriting. Et quand les gens en fait doivent écrire une annonce, souvent, ce n'est pas génial. Donc, je te passe les fautes d'orthographe et tout ça. Mais moi, je l'ai vu parce que je mets un appart en loc. Et c'est vrai que quand j'ai vu mon agence immobilière qui me faisait l'annonce, j'ai... Attends, on va passer une petite couche de copywriting là-dessus. Alors déjà, tu vas mettre, comme c'est un truc pour une famille, tu vas mettre qu'il y a les écoles proches à côté, que tu peux aller en 5 minutes, des choses comme ça. Toi.
Ouais, t'améliores les choses.
Des choses comme ça. Donc, c'est des choses que tu connais et puis tu travailles un peu le copywriting. Et eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé justement aux personnes qui ont des logements d'avoir donc l'IA générative qui va rédiger à leur place des annonces. Et donc, en fait, les personnes ont juste à indiquer quelques petites infos et hop, l'IA va générer une annonce qui est assez standard, donc assez sympa. Le troisième point, et je trouve que là, c'est assez intéressant et ça donne des perspectives intéressantes pour tous les éditeurs de logiciels, c'est qu'en fait, ils ont du reporting en langage naturel. Parce que pour l'instant, tu sais comme moi que tu as tes tableaux de bord, tu verras sur les inscrits de ton webinaire, hein, tu verras le nombre d'inscrits, etc., etc. Sauf qu'avec l'IA génératif, maintenant, tu peux faire du reporting on demand. C'est-à-dire que dis-moi quels sont les clients qui me doivent de l'argent. Dans l'occurrence, pour lui, c'était « Dis-moi quels sont les gens qui me doivent de l'argent, quel est le montant de l'argent que j'ai dehors, etc. etc. » Et ça te fait donc des résultats, et ça te fait aussi des requêtes. Et toi, René, toi, tu connais la chose en e-commerce, tu peux dire « Qui sont mes clients qui ont acheté tel produit ?» Dis-moi la liste. Et ce qu'on pourra voir après dans le futur, c'est bien sûr passer à l'action. C'est « Envoie une promotion à tous les clients qui ont été intéressés par tel produit. » Donc ça, je trouve que c'est assez sympa de pouvoir… Enfin, c'est reporting conversationnel. Voilà, je trouve que c'est bien. Et toi, ça donne un petit peu l'avenir pour moi. C'est que certes, tu as des reporting classiques, mais après, tu vas pouvoir donner plus d'intelligence à ta data, à ta donnée. Voilà.
Si je peux juste rajouter un truc sur la partie support client, parce que nous, c'est quelque chose qui est important. Hein. Chez WeezyShop, on accompagne nos commerçants quand ils se lancent sur des boutiques et tout ça. Et ça fait un bon moment maintenant qu'on a intégré de l'intelligence artificielle dans tout ça. Ça a été un grand défi au début parce qu'on voulait continuer à avoir une bonne qualité et puis faire en sorte que derrière, les personnes qu'on appelle les business coach chez nous qui accompagnent nos clients soient toujours bien présents. Et pour vous parler de tout ça, nous, de notre côté, ce qui est important dans l'intelligence artificielle, c'est la data. Donc, on a une énorme base de données avec toute la documentation de WeezyShop, la documentation externe, la documentation interne que l'on a créée sur les 15 dernières années. Et en fait, on a fait en sorte aujourd'hui que lorsqu'une personne dialogue avec notre support, eh ben, il y a une par écrit, hein, il y a une pré-réponse qui est rédigée par l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'en fait, nos équipes vont se servir de cette réponse-là pour répondre aux personnes. Ils vont la qualifier, bien sûr. Il y a toujours de l'humain qui va être présent. Et ça va aussi changer ça a changé aussi le paradigme de nos équipes. C'est-à-dire que, on va aussi s'attacher à savoir pourquoi l'intelligence artificielle répond mal. Et si elle répond mal, ça veut dire que il manque de la documentation, il manque de la data et qu'il va falloir en rédiger. Et je reviens sur le côté proactif dont parlait Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, de notre côté, on a eu à 30 à 40%, c'est plus autour des 40% aujourd'hui, du temps qui est utilisé par l'intelligence artificielle plutôt que par nos équipes. Et du coup, ce temps-là, maintenant, on l'investit pour être plus proactif auprès de nos clients, pour pouvoir aller prendre des nouvelles, savoir où ils en sont, et proposer des choses. Et ça change la vie, en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Grâce à l'intelligence artificielle, on rajoute de l'humain sur des choses qui pouvaient manquer avant et qu'on peut faire en plus grand nombre.
Ouais, et tu as raison sur l'aspect data. C'est essentiel parce que le problème, c'est que si tu lui donnes à manger du contenu qui est obsolète, il va faire des choses qui sont obsolètes. Et comme tu disais au début du débat, Rémi, l'intelligence artificielle, c'est pas une baguette magique, elle est pas auto-apprenante. Si tu lui dis que ta boutique e-commerce, elle est ouverte de 9h à 17h et que les frais de port sont de 15 euros et que ça, c'était il y a un an et qu'en fait, tu redonnes pas à manger la FAQ un an plus tard et que tu as augmenté tes prix de frais de port ou tu as changé quelque chose, si tu ne prends pas le réflexe de mettre à jour, ça ne va pas. Pareil, si tu lui donnes à manger des FAQ, sauf qu'en fait, lui, il ne connaît pas quelle est la vraie réponse. S'il y a deux réponses qui sont un peu proches ou il y a une solution, une autre qui en a une solution, en fait, il va pas savoir. Et donc, il faut savoir donner les bonnes choses et pas tout balancer ta FAQ ou tes bases de connaissances ou tes emails ou tes procédures, n'importe comment. Quoi. Il y a quand même un petit travail de réflexion en interne et une habitude à prendre faire en sorte que les réponses soient de qualité. Quoi.
Tout à fait. Du coup, René, justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que toi, tu as un exemple concret d'une TPE-PME qui utilise l'IA aujourd'hui, qui fait partie de tes clients, qui serait intéressant de partager avec le chat aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête, qui pourrait être intéressant de partager?
Alors, dernièrement, en fait, on voit beaucoup de personnes de plus en plus utiliser l'intelligence artificielle parce que nous, on l'a intégré de notre côté et c'est surtout via notre application où on voit ça. C'est-à-dire que donc on a lancé Pizzy, qui est une application qui va permettre aux commerçants de prendre des photos de ses produits et à partir de simplement la photo, ça va la retoucher, ça va la mettre sur fond blanc, ça va la mettre aussi sur un décor qui va être fait exprès pour cette photo, pour ce produit-là, et puis ça va rédiger une fiche produit complète avec un titre, une accroche, une description longue. Et la title et la métadescription optimisées pour le SEO. Et nous, ce qu'on a vu, parce que ces derniers temps, on s'est attaché à faire des interviews sur nos clients qui démarrent avec nous, enfin de nos prospects plus que nos clients. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup en ce moment choisissent nos solutions parce que l'intelligence artificielle est là pour les aider. Et en fait, ce qu'on a vu surtout, c'est des commerçants qui arrivent à se lancer beaucoup plus rapidement. Grâce à, entre autres, Pizzy qui va l'aider à créer les fiches produits. Et en fait, ça répond à une problématique que nous, on a vu depuis 15 ans dans notre métier, où le commerçant, quand tu le mets devant un ordinateur et qu'il te dit, vas-y, rédige une fiche produit, mais il est perdu. La page blanche, c'est une catastrophe pour lui. Et au mieux, il va te copier-coller les caractéristiques qu'il a récupérées de son fournisseur. Et comme ça, on aura la même chose que tout le monde. Et sinon, bah, la plupart du temps, on est sur quelque chose qui est assez pauvre. Et là, ce qu'on voit clairement, c'est que ça change la donne avec l'intelligence artificielle parce que ça allume la flamme, ça crée un contenu qui la plupart du temps est déjà bien réalisé. Avec nous, on travaille sur le copywriting de l'intelligence artificielle qui est derrière pour que ça soit le mieux possible au niveau de la rédaction. Et après, derrière, une fois qu'ils ont ça, en fait, on a fait 80% du boulot pour eux. Ils vont faire la dernière étape qui est de relire, de vérifier, parce qu'on fait pas confiance à l'intelligence artificielle. Hein. On relit ce qu'elle va créer et ils vont apporter leur valeur ajoutée. Eux, en tant que commerçants, qui connaissent leurs produits, ils les connaissent beaucoup mieux qu'une intelligence artificielle. Et sur la base de ce qu'a déjà rédigé l'intelligence artificielle, et bien, ils vont faire mieux.
Et souvent, ça les débloque en plus, j'imagine.
Ouais. Et il y a aussi le problème de temps. Aujourd'hui, quand tu vas parler à un commerçant qui a une boutique physique et que tu lui dis « mais vous avez une boutique en ligne », il dit « mais moi, j'ai pas le temps de créer ça ». Ben là, tu leur dis, ben prends ton téléphone et au fur et à mesure, dans la journée, quand tu as un moment de creux, tu prends des photos de tes produits et à la fin de la journée, tu as déjà ta boutique qui est pré-créée avec tes produits, tu as 80% du boulot qui est fait. Tu sais que du coup, la marche pour pouvoir se lancer, elle est beaucoup plus petite et ça va faire en sorte qu'il y en ait beaucoup plus qui passent le pas et qui créent leur boutique plus à côté, qui multiplient leurs canaux de vente tout simplement.
Ouais, je te rejoins parce que justement j'avais eu le cas avec une amie de ma femme qui avait un magasin de jouets et en fait ce qui se passe, je lui dis mais pourquoi en fait tu mets pas en ligne parce que à chaque fois il faut aller dans ta boutique et tout ça. Il me disait mais non mais j'ai pas le temps parce que déjà j'ai un stock limité, j'ai 1, 2, 3 articles de chaque et comment veux-tu que je gère ça. Et c'est vrai que j'ai vu la démo de ton application René, c'est vraiment impressionnant parce que tu prends la photo et ça te crée toute la fiche et c'est un petit peu ça qu'elle attendait parce que elle me disait mais j'ai pas le temps de faire ça et en plus ça va devenir obsolète au bout de quelques jours. Donc là, c'est quelque chose qui permet vraiment de gagner du temps et je te rejoins sur la praticité pour un petit e-commerçant qui n'a pas les moyens d'une grosse boîte. Et c'est vrai que ça fait des choses un peu propres. Même moi, à mon niveau, tu vois, j'essaye de recycler et d'utiliser le bon coin pour les trucs que mettent mes filles. C'est vrai que quand tu prends une photo d'un produit et qu'il est détouré, qu'il est bien propre, ça fait quand même un peu mieux que le truc qui est pris sur le sol et tout ça. Donc, c'est un vrai plus et ça permet de vendre en fait un produit parce que au contraire du commerce où les gens peuvent voir et toucher le produit, en e-commerce, ils ne peuvent pas le voir. Donc, c'est très important d'avoir une belle photo.
Oui, complètement. De toute façon, on est vraiment sur ces... C'est intéressant parce que toutes ces parties-là, en fait, de e-commerce... Moi, j'ai pas mal travaillé aussi avec des e-commerçants et c'est vrai que pour eux, leur site internet, c'est je l'adore et je le déteste en même temps. Il y a vraiment cette relation, je trouve, qui est... putain, faut encore y aller, faut encore modifier tel truc, machin. Ah, tu sens que c'est pas... Voilà. Alors que ils en ont besoin, donc ils savent que c'est quand même important, ils le font. Mais là, c'est vrai qu'avoir des outils comme ça, ça permet de simplifier la vie, d'aller beaucoup plus vite, de faire les choses mieux. Et puis, ça accompagne des gens qui sont aussi souvent, qui n'ont pas forcément envie de mettre non plus le nez dans la technique, même dans la technique d'écriture, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie d'écrire, quoi. Ils n'ont pas envie de décrire.
Mais en fait, ils ne savent pas. Moi, je te dis clairement, moi, je suis dyslexique, ma fille est dyslexique, et les fautes d'orthographe, c'est compliqué. J'ai travaillé pendant... 5-6 ans dans les années 2000 dans un site
e-commerce. T'as écrit des milliers d'articles de blog.
Pourtant, il y a des fautes. Mais à l'époque, tu vois, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Tu vois, c'est ce que je dis à ma fille parce qu'elle me dit, l'orthographe, papa, j'en peux plus. Je dis, mais attends, regarde ce qu'a fait papa. Il a écrit des bouquins, il a écrit des articles de blog et ça marche. Mais donc, en fait, au début, tu vois, je bossais sur un site e-commerce et c'était vraiment le début. C'était dans les années 2000. Et à chaque fois, j'étais obligé de faire valider mes fiches produits parce qu'il y avait des fautes d'orthographe partout et parce que je faisais pas suffisamment attention. Il n'y a pas de correcteur d'orthographe comme maintenant. Et donc, c'est vrai que s'il y avait eu les applis comme celle que René propose, ça aurait fait gagner vachement de temps parce que prendre des photos, on repiquait des photos déjà vues ailleurs. Les descriptions de fiches produits, c'était du copier-coller d'autres sites internet ou du site internet du fournisseur. Tu peux pas. Là, tandis que là, comme tu dis, René, tu prends ton image et surtout, tu apportes ta propre valeur ajoutée parce que tu peux rajouter ton petit texte à toi qui fera la différence, idéal pour les familles, et c'est des choses comme ça où tu peux scraper même des avis clients et après en faire un résumé. Ça, c'est des choses assez sympas. Voilà.
Ouais, il y a beaucoup de choses possibles.
Je voulais juste rajouter un truc, c'est que c'est intéressant, mais pas que pour les petits commerçants qui ont besoin de se lancer avec un nombre réduit de produits. Dernièrement, on a été approché par des commerçants qui ont des gros catalogues et qui nous disent, ben, nous, on a juste la photo ou juste la photo et la description de notre fournisseur. Et moi, là, clairement, je peux pas mettre quelqu'un qui va rédiger toutes ces descriptions-là. Et du coup, on a travaillé avec eux déjà en amont et on sait très bien qu'aujourd'hui, avec Pizzi, eh ben, on peut aussi proposer, on l'a fait pour ces clients-là, ils nous envoient un CSV avec toutes les informations qu'ils ont et nous, on fait tourner l'intelligence artificielle par-dessus qui va analyser les images des produits, qui va analyser le contenu qu'il y a déjà et va donner ces informations-là. Et quand tu as un catalogue avec 1000 fiches produits qui sont totalement vides, eh ben, ça permet de les pré-rédiger. Et le temps qu'avant, tu devais prendre pour rédiger les fiches produits, ben maintenant, tu le divises par un certain nombre pour pouvoir avoir qu'une personne qui va juste relire les fiches et vérifier qu'elles sont bien.
Et ajouter de la valeur.
Du coup, tu vas pouvoir et ajouter de la valeur ajoutée. Et du coup, mettre enfin en ligne tes produits ou améliorer tes produits que tu avais déjà en ligne, mais sans aucune description. Et ça, ça change la vie aussi pour des commerçants qui sont à taille beaucoup plus grosse.
Ouais. Alors, moi, il y a juste un truc. C'est vrai qu'on en parle là. Il y a juste un petit bubble au niveau de... Moi, je parlais de mon métier de blogueur. Hein. C'est la partie attention à la rédaction IA. Donc, quand tu parles de zéro, bien sûr, pour une fiche produit, c'est hyper intéressant d'avoir quelque chose qui est fait. Quand tu es comme blogueur, il faut quand même réécrire la chose. Il faut quand même apporter ta propre valeur ajoutée parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ChatGPT, pour moi, c'est un étudiant de 18 ans. Donc, en fait, il ne connaît pas le métier, il ne connaît pas l'expertise. Quand on rédige en fait un contenu, il faut toujours rajouter sa petite couche à soi. Même si tu peux prompter en disant « écris-moi un langage professionnel, machin, sois synthétique » et couper en fait le blabla de vieux profs de français que génère ChatGPT ou Mistral ou notre ami Claude. D'ailleurs, Claude, et je trouve que est pas mal, quoi. Claude, au niveau de la rédaction, limite meilleur que ChatGPT.
Ouais,
bon, bref, pour revenir là-dessus, c'est que il faut rajouter sa petite couche personnelle et son expertise métier parce qu'autrement, tu as des détecteurs de contenu IA qui alors, ça marche pas à 100%, ça marche peut-être une fois sur deux, mais moi, par exemple, en tant que blogueur, je reçois régulièrement des propositions d'articles sponsor, d'articles guest posting, d'interviews, de gens qui veulent écrire sur mon blog. Enfin, j'en ai quand même moins maintenant parce que le blog est quand même un petit peu retombé par rapport aux réseaux sociaux, mais j'en reçois régulièrement et une fois sur deux, le contenu, il est quasiment généré à 90%.
Ah, c'est, ouais, avec même à 100%. IA. Je dirais même à 100%.
Et, ouais, bon, enfin, le détecteur, il dit, voilà, et là, tu te dis, merde, et tu te fous de la gueule, parce que si je publie ce truc-là, enfin, je dis pas ça comme ça, hein. Mais toi, il n'y a pas longtemps, il y avait un gars que je connais qui a écrit un bouquin et je lui ai dit tiens, bah, fais-moi un petit résumé qui présente ton bouquin, voilà les questions. Et je vois le truc, je dis oh, putain, il m'a fait ça en une journée, enfin du jour au lendemain. Je dis waouh, dis donc, t'es motivé. Je le passe dans Originality et là, je vois 95% de contenu généré par l'IA. Or, en fait, il y a eu comme les updates de Google, je crois que c'était en mai ou quelque chose comme ça, où ils ont dit qu'ils préféraient quand même pas trop le contenu IA par rapport au contenu humain. Et bien, en fait, je lui dis, mais non, mais t'es gentil, regarde, c'est un contenu généré par l'IA. Est-ce que tu pourrais pas comme refaire une partie au moins d'humain pour que ça fasse pas trop automatisé, quoi. Voilà, c'est,
ouais, clairement.
Ce qu'il faut surtout prendre en compte pour Google, c'est l'intention de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand tu rédiges une fiche produit, que tu l'aies faite rédiger par l'IA, que tu la rédiges toi-même ou que tu couples les deux, et là, c'est encore mieux, prends en compte le fait que tu parles à un utilisateur, qu'est-ce qu'il attend et de quoi il a besoin. Et si tu arrives à répondre à ça, eh ben là, c'est bon, tu te retrouves bien par rapport à Google parce que Google, c'est ce qu'il recherche. C'est qu'il recherche une fiche produit, un site internet, une description qui va correspondre à l'intention de l'utilisateur lorsqu'il est arrivé sur ton site. Et si tu arrives à coller à ça, ben là, tout va bien. Donc, je bannis pas l'intelligence artificielle pour la création de fiches produits et loin de là, mais faisons en sorte que ça se fasse bien dans l'intérêt de l'utilisateur et pas dans l'intérêt de flouder le web, comme on peut voir dans certains
cas. Tout à fait. Puis en plus, on risque d'avoir un problème, c'est qu'à terme, les IA vont être entraînés sur des contenus d'IA qui eux-mêmes sont pas très bons, et du coup, on va se retrouver avec des contenus encore moins bons à terme. Il faudra qu'on fasse attention.
Photocopie de photocopie.
C'est ça.
Bah, en fait, l'IA va t'obliger à te distinguer plus sur ton contenu à toi et d'avoir plus de voix, plus de personnalisation. Et c'est vrai que moi, dans mes articles de blog, tu vois, depuis un moment, c'était déjà le cas. Mais maintenant, en fait, moi, je me distingue par l'aspect actionnable. C'est-à-dire que j'aime bien dans mes bouquins et dans mes articles de blog de dire à la fin de chaque paragraphe, voici ce que vous devez faire. Et en fait, ce truc-là, les bots, pour l'instant, ne savent pas le faire vraiment. Non. Mais quand tu le fais, les gens disent, ah ouais, j'ai vraiment appris.
Ils sont très littéraires encore, les bots. Hein. C'est vrai qu'ils sont très, très littéraires.
Le vieux prof de français. Mais c'est lié aussi au fait que, tu vois, les gens qui l'ont entraîné, il y avait beaucoup de gens qui étaient originaires d'Afrique ou des choses comme ça, qui ont parfois aussi un écrit qui est très littéraire. Et pas en fait, même tu avais des sources de contenu qui étaient très littéraires et c'est pas du contenu parlé. Moi, je sais que ChatGPT décrit beaucoup comme ma collègue Chantal, qui fait des études littéraires et elle écrit, mais à chaque fois, je me fous d'elle parce qu'elle me dit en outre, en l'occurrence, nonobstant.
C'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison. Il faut protéger quand même notre beau français. Attention, hein, parce que bon.
Ah ouais, mais quand tu écris des trucs comme ça.
Mais c'est vrai qu'à l'écrit, c'est bizarre.
Ça fait, surtout sur une publication LinkedIn, ça fait dans un livre blanc, pourquoi pas. Mais tu vois, à chaque fois, j'ai dit ah tiens, tu t'écris comme ChatGPT, quoi. Tu fais du bon français. Mais c'est du bon français. Mais c'est parfois un peu trop justement français, parce que moi j'essaie justement, en tout cas sur les réseaux sociaux, d'avoir plus d'humains, plus de langage parlé. Et moi je dis toujours, tu vois, il y avait une internante qui était chez nous il n'y a pas très longtemps, et elle, je lui disais, mais essaye de rajouter ton émotion, dis voilà ce que je pense, etc. Mmh. En plus, si tu génères une partie du post avec ChatGPT, il faut au minimum que toi tu rajoutes ta couche humaine là-dessus, quoi.
Ah mais clairement, ça se voit en plus, hein, ça se voit vraiment. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette première partie, je vais vous libérer du coup René et Frédéric, parce que je sais que vous avez aussi d'autres choses à faire hein, que de faire des grands débats IA avec Rémi sur LinkedIn. Où est-ce qu'on vous retrouve, et est-ce qu'il y a un outil que vous voulez mettre en avant, un outil IA qui vous a rendu dingue ces dernières semaines et que vous avez envie de partager avec nous?
Ok, alors où est-ce qu'on me retrouve? Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, il y a ma newsletter, donc rené-coton-avec2t.fr, sur laquelle vous pouvez vous abonner. Comme je passe mon temps à faire de la veille sur l'intelligence artificielle pour savoir comment on peut l'utiliser, clairement, c'est sur ça que je travaille. Vous pouvez aussi retrouver en fait tout ce que l'on peut faire sur WheezyShop, et si certains sont intéressés de voir comment fonctionne notre application PayZadi, vous pouvez l'installer et la tester gratuitement sur votre smartphone. Donc voilà, je serais même curieux, s'il y en a certains qui veulent me faire un tour, n'hésitez pas, venez m'écrire sur LinkedIn, ça nous permettra d'améliorer le produit derrière. Et alors, qu'est-ce que dernièrement j'ai été bluffé? Alors, je vais sortir ma casquette technique hein, de Techos, mais dernièrement, on l'a évoqué rapidement quand Frédéric a parlé de Claude, mais la version 3.5 de Claude, c'est un truc assez dingue, je trouve. Et je trouve assez fort, en tout cas, Anthropic, la société derrière Claude, d'arriver à coller au basque de OpenAI, aussi proche de OpenAI, alors qu'ils ont beaucoup de moyens, mais ils en ont beaucoup moins que nos amis de chez OpenAI. Et donc, oui, je suis assez bluffé de la dernière version 3.5 de Claude. Voilà, s'il y en a qui sont curieux, allez tester sur le chatbot de Claude, c'est assez dingue ce qu'il arrive à faire.
Ouais. Alors moi de mon côté, ce qui m'a vraiment comme le plus impressionné les derniers mois, c'est quand même iGen avec les clones vidéo, parce que pour l'instant en fait, et surtout c'est multilingue, tu vois, je me suis amusé comme ça à me faire parler en français, en russe, en japonais. Alors pour l'instant c'est du gadget, faut vraiment se dire clairement, j'ai vu des landing pages, j'ai fait moi-même quelques vidéos comme je le disais, c'est du gadget, mais je trouve que c'est, si maintenant on arrive à faire ça, qu'est-ce qu'on pourra faire dans 6 mois, dans 1 an? Donc iGen, je trouve vraiment sympa et intéressant, comme tu l'as dit Claude, ChatGPT aussi, c'est vraiment je trouve que ça évolue tellement vite et c'est tellement impressionnant ce que ça fait, donc voilà, rien que c'est ce que je dis toujours, ça sert à rien d'aller chercher la dernière innovation technologique, commencez déjà à maîtriser le basique, parce que vous partez de zéro, rien que d'utiliser ChatGPT ou Claude ou peu importe, enfin moi j'aime beaucoup ChatGPT, mais donc rien que d'utiliser cet outil là c'est déjà ça. Avant de chercher les derniers outils, le truc à la mode, commencez à maîtriser l'outil et surtout utilisez-le dans votre quotidien. En fait, le plus grand défi pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens regardent ChatGPT, ils utilisent un petit peu, et surtout, il y en a beaucoup de gens qui comprennent pas comment ça marche. ChatGPT l'utilise comme un Google ou comme un Wikipédia en posant des questions. Mais c'est pas comme ça que ça marche. ChatGPT, en fait, il doit être considéré comme un assistant. Je parlais tout à l'heure de l'alternant de 18 ans qui vient dans votre boîte. Vous n'allez pas lui dire, fais-moi une définition, mais tu vas dire, bah, par exemple, moi, j'aime bien utiliser ChatGPT pour compléter mes articles de blog en disant, bah, écris-moi une FAQ, enfin, je lui file un texte, écris-moi, j'envoie dans un bloc-notes ou je le copie-colle selon que ça soit long ou pas. Je dis, mais écris-moi 10 FAQ sur ce sujet-là. Et ensuite, donc, là-dedans, il y en a 3-4 qui sont corrects. Je lui dis, mais donne-moi 10 autres questions FAQ qui seraient intéressantes à donner. Et en fait, quelque part, quand tu le fais travailler comme ça en assistant, eh ben, en fait, c'est plus pareil. Et c'est là
c'est que toi que ça améliore au final. C'est ça qui est dingue.
Ouais, tu gagnes du temps. Voilà. Et puis donc, pour finir, comme je te le disais, si vous voulez en savoir plus sur les outils d'IA et surtout du centre de contact, allez voir sur Eloquent. Mais pour moi, c'est se dire commencer simplement. Commencer simplement. Ouais. Le plus important, c'est de se lancer et de l'utiliser au quotidien.
Rémi, si je peux rajouter un mot sur un petit truc qui change la vie lorsque vous utilisez ChatGPT, Claude, Mistral hein, aussi. Quand vous lui demandez de faire quelque chose, donc vous lui donnez de la data et vous lui dites de faire quelque chose avec, dites-lui, avant de faire ce que je t'ai demandé, pose-moi 5-10 questions, hein, vous choisissez, pour mieux qualifier ma demande. Et vous allez voir, à ce moment-là, il va vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Et vous allez lui rajouter des informations qui vont faire que derrière, ce qu'il va générer va être beaucoup plus intéressant. Et je rejoins Frédéric. En fait, c'est un assistant, c'est une personne qui va être là et qui va dire « Ah mais et par rapport à ça, et est-ce que tu peux me dire sur ça ?» Et cet apport de données change la donne dans la discussion avec une IA.
Alors, clairement. Je rajouterais peut-être un dernier truc. moi, j'aime bien.
On va jamais y arriver.
c'est juste un petit truc, c'est qu'en fait, tu vois, les gens pensent beaucoup à ChatGPT pour en fait créer leur truc en ligne, etc., pour poser des questions. C'est vrai que désormais, tu as pas mal de solutions qui permettent de créer ton propre ChatGPT à partir donc tes FAQ. Là, de René, tu le vois sur les sites internet que tu administres avec EasyShop. Hein. Donc, solution française en plus niçoise. Donc,
il faut
valoriser le Made in France. Non, mais c'est vrai, tu rigoles, mais nous, on essaye de le valoriser parce que le problème, c'est que toutes ces technos d'IA génératif, à part Mistral, sont étrangères. Donc, en fait, on risque d'avoir une grosse dépendance à l'IA étrangère. Donc, il faut essayer. Moi, j'essaye le plus possible, c'est de valoriser quand même les boîtes françaises parce que c'est comme en fait, c'est comme les ordis. Maintenant, tu n'as plus d'ordinateurs qui sont fabriqués en France, tu n'as plus de frigos qui sont fabriqués en France. Et bien, à un moment donné, tu vas être dépendant d'autres technologies. Voilà. Et donc, je vous ai quand même montré un petit outil alors, qui est américain, malheureusement pas français, qui permet de créer son ChatGPT en quelques minutes. Alors, c'est un peu cher, je ne vous conseillerais pas de l'acheter. Vous avez une version trial, utilisez-le pour juste voir un peu ce que ça peut faire. Mais en fait, vous pouvez créer votre propre ChatGPT, vous envoyez vos FAQ, vos textes, vous pouvez taper un truc et ça vous fait votre propre ChatGPT. Après, vous avez plein de solutions. Tu as des solutions que nous, on administre. Tu as du Google, tu as du IDETA, tu as du Bot Nation. Tu as plein de petites solutions qui permettent de créer ton propre ChatGPT. Mais sincèrement, c'est pas cher et ça peut rapporter gros parce que ça fait un premier niveau de réponse. Toi, René, tu utilises quoi en solution IA générative chatbot chez EasyShop?
En interne, et on avait dit qu'on laissait Rémi après, hein, parce que là, on est en train de discuter.
On va lui bouffer son live.
Pardon, Rémi.
On a pris le contrôle.
On utilisait beaucoup de l'OpenAI. On utilise de plus en plus, on regarde tout ce qui peut se faire avec du Mistral et de l'héberger. Du Llama 3 aussi, très intéressant pour travailler sur tout ça. Donc voilà, on a commencé par du classique avec de l'OpenAI et on va sur... On intéresse de plus en plus à aller vers sur de l'héberger et sur de l'open source qui est très intéressante et qui devient presque aussi forte aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai que Llama est pas mal, mais un peu
merci. Gourmand quand même. Frédéric, je vais devoir couper. Hein.
Non, on va prendre le contrôle là.
Merci Rémi, à vous, c'était vraiment génial de vous avoir en tout cas.
Merci beaucoup Rémi pour l'invitation.
Je vais vous laisser vaquer à vos occupations, je vais faire monter Grégoire avec moi. Et on va passer à la deuxième partie. Merci à vous en tout cas et à très bientôt.
Ciao.
Bonne fin de journée. Ciao.
Je vais faire monter Grégoire. Est-ce que vous êtes là?
Salut.
Ouais, est-ce que vous m'entendez toujours?
Normalement, c'est bon.
On détourne mon live, du coup, ça a tout fait planter. C'est terrible. C'est terrible. Bon, merci à vous. En tout cas, merci à tous ceux, encore une fois, qui ont participé à ce live. On va continuer. Là, il y a une deuxième partie maintenant avec Grégoire. C'est vraiment génial de pouvoir partager tout ça avec vous et de parler d'IA générative. C'est vraiment un truc qui nous... Enfin, qu'on adore, quoi. Je sais pas vous, mais en tout cas, dites-nous en commentaire là, ce que vous avez pensé de cette première partie. Et si vous en voulez plus, c'est important. Mais en tout cas, voilà, je pense que les choses sont là. Comment vas-tu, Grégoire ?
Très bien, mais que j'ai écouté tout le live. C'était vraiment très intéressant et il y a eu des super conseils. Bravo Frédéric et René pour les conseils.
C'est quoi, toi, tes grandes peurs liées à l'IA, toi ? T'en as ?
Que les jobs ne soient pas remplacés. Je pense que c'était un des points qui a été abordé. Je pense que ça, c'est un des trucs où il faut faire de la qualité et pas supprimer et continuer à faire du cheap. C'est utiliser l'IA pour faire mieux et pas pour faire moins.
Ouais, ça va être...
Et pas pour faire pour moins cher, c'est ça. Et je pense qu'un des conseils les plus importants qu'il faut souligner, c'est poser des questions. Ce que René disait, poser des questions à l'IA. C'est que moi, je le fais, mais il faut que je le fasse encore plus.
Ouais.
C'est lui dire, pose-moi des questions. Et parce que souvent, quand on se rend compte au fil de la discussion, quand on lui dit « Ah non, c'est pas ça, j'aimerais ça plutôt comme ça, ou reformule ça comme ça, ou j'utilise pas ce type de vocabulaire, j'utilise ça à la place », les résultats sont beaucoup mieux. Donc c'est vrai que le faire directement en disant « Pose-moi 5 questions », c'est pas très long. Et ça permet d'avoir des résultats de bien meilleurs.
Et puis quand tu lui fournis effectivement aussi un peu de données, c'est super intéressant. Quand tu améliores les instructions personnalisées aussi, qui sont très importantes, je sais que beaucoup de gens ne le font pas. Vous avez des options qui vous permettent de travailler un peu sur les instructions personnalisées que vous allez donner à ChatGPT. Ça, c'est super intéressant et important. Ça vous permet d'avoir un rendu meilleur, d'avoir de meilleurs résultats, de meilleures réponses. Et justement, nous, on propose quelque chose, on voulait vous en parler, ça fait des mois qu'on travaille et qu'on optimise à chaque version, à chaque fois, ce qu'on souhaite proposer, hein. Donc on a maintenant une grosse formation avec un outil automatisé, avec pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça, Grégoire, ce qu'on a à l'écran, du coup, actuellement?
Je pense que la formation, c'est savoir à qui ça s'adresse et pourquoi. Donc la formation, c'est aux gens qui sont indépendants ou qui ont une entreprise, qui sont à leur compte au compte des salariés et qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, ce que je disais, c'est faire de la qualité et pas remplacer les gens. Donc, se former pour que votre équipe actuelle ou vous fasse de la meilleure qualité en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, ça, c'est l'objectif. C'est faire mieux pour gagner, pour augmenter votre CA. Donc, comment on fait ça? On a différents modules de formation sur comment bien utiliser ChatGPT. Donc là, un des conseils qui a été donné, ça a été de poser des questions. Et on vous montre en détail, on a préenregistré différents modules en disant, ben voilà, là, on a donné des conseils qui étaient très bons, mais très génériques. Et dans la formation, dans les différents modules, on donne des conseils appliqués aux entreprises. Donc ça, on a fait un récap de toutes les entreprises qu'on a accompagnées en individuel. On l'a mis dans une formation en ligne où vous y avez accès quand vous voulez. Et ensuite, on peut travailler, si vous voulez, individuellement sur votre cas, mais vous avez déjà les modules où on vous dit, bah, écoutez, pour utiliser l'IA avec une approche business et vendre plus, voici comment parler à ChatGPT et aux autres outils, comment générer des images, comment faire des shorts, comment améliorer sa présence sur les réseaux sociaux, en gagnant du temps et en faisant plus. Pour dans l'objectif d'augmenter votre CA et d'augmenter votre clientèle.
Voilà, donc la formation, hein, comme vous pouvez le voir, il y a quatre choses. En fait, il y a trois modules plus une masterclass. Donc, il y a un premier module, c'est vraiment l'analyse de votre entreprise avec l'IA. On vous aide à mieux comprendre vos clients, mieux comprendre votre offre et à créer quelque chose qui soit plus en corrélation pour que les deux matchent mieux. Ensuite, on a la module 2 qui est la création d'une offre irrésistible. Donc, en fait, grâce aux données qu'on a obtenues sur le premier module, on peut savoir qu'est-ce qui va mieux se vendre pour vos clients idéaux. Donc ça, c'est super intéressant. On vous explique dans ce module-là comment créer une offre qui va vraiment plaire à votre clientèle idéale. Dans le module 3, on vous explique comment vous allez pouvoir créer des contenus sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur votre site, etc., pour vous aider à vendre plus ces produits et ces services. Et il y a également une masterclass exclusive d'1h30 où on a vraiment partagé des centaines d'astuces sur comment bien utiliser l'intelligence artificielle. On voit beaucoup de gens l'utiliser, mais souvent mal. Ils n'ont pas les bonnes astuces, ils n'ont pas la bonne méthode et ils ont des résultats qui sont moyens, voire médiocres. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on voulait travailler. Et Grégoire, tu as également travaillé sur un outil IA. Est-ce que tu veux expliquer un peu à quoi il sert et comment il fonctionne ?
Ouais, je vais présenter l'IA. Si tu veux, en même temps, partager le lien sur le chat LinkedIn ou dans les commentaires LinkedIn pour les gens qui souhaitent rejoindre la formation. Bien sûr. Là, vous avez le lien dans les commentaires sur YouTube et Rémi va vous partager le lien sur LinkedIn. Tu es en partage d'écran.
Ouais, ok.
Donc, l'outil, ce qu'on a fait, c'est on a dit c'est bien l'intelligence artificielle, mais le problème, c'est d'aller à chaque fois demander à ChatGPT, copier-coller. Donc, pour simplifier ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin qui était assez fréquent, c'est les gens ont besoin de faire de la com. Sauf que faire de la com, il faut trouver des idées, faire un plan pour chaque idée, faire le contenu, le mettre en forme, l'optimiser pour les réseaux sociaux et le poster. Et tous les clients avec qui on a bossé pour augmenter leur présence en ligne pour qu'ils aient plus de clients, le premier levier, c'était faire plus de com. Donc, poster plus régulièrement. Pour ça, on a fait un outil qui permet, à partir d'une simple idée, typiquement, si vous êtes un coach sportif, vous faites des cours de CrossFit à Bordeaux, et vous allez dire, pourquoi le CrossFit, c'est intéressant quand on a tel et tel objectif de prise de masse ou perte de poids. Et vous allez écrire un email avec vos idées en disant, moi, je suis prof de CrossFit, j'aide les gens qui veulent perdre 10 kilos pour se remettre, j'aide les hommes de plus de 40 ans qui veulent perdre 10 kilos pour se remettre en forme. Pourquoi le CrossFit, c'est bien pour eux et c'est pas nocif pour leur santé? Parce qu'on peut faire des exercices, tel et tel exercice qui sont souples pour les articulations et cumuler une alimentation patati patata. Vous dites au brouillon, vous faites votre brouillon dans un mail. On a configuré une automatisation avec un outil en ligne qui est assez compliqué à utiliser, mais on vous a tout préconfiguré. Ça s'appelle make.com, qui est un outil pour automatiser les IA, créer des automatisations, des tâches au lieu de les faire à la main. Aller chercher l'idée, aller sur ChatGPT, demander à ChatGPT de le reformuler, aller poster sur LinkedIn. Avec Make, on a automatisé tout ce process. Donc, vous écrivez, vous pouvez même dicter dans votre mail vos idées, vous l'envoyez à l'automatisation, et l'automatisation vous répond avec le texte optimisé pour LinkedIn. On peut le décliner sur les différents réseaux sociaux, et avec une image. Comme ça, en 2 minutes, vous dictez votre mail, vous dites « voici mon idée du jour ». Et 1 minute après, vous avez comme réponse un post LinkedIn optimisé avec une image qui détaille avec votre style d'écriture votre service ou votre idée du jour. Donc comme ça, ça
permet... Concrètement, vous pourriez vous lever le matin, prendre votre petit café, écrire un petit email tranquillement à l'adresse email qu'on vous aura indiquée avec votre idée, et 1 heure après, même pas, hein, quelques minutes après, recevoir un post LinkedIn préconçu, bien écrit, avec tous les canons de beauté LinkedIn, et directement dans votre boîte mail, sans jamais avoir ouvert un outil d'intelligence artificielle, sans jamais être entré dans la technique de quoi que ce soit, sans jamais avoir... vous êtes pris la tête, finalement. Et ça, c'est génial. Merci à Grégoire d'avoir codé ça, parce que c'est vraiment excellent. Et on vous le propose, du coup, dans le produit qu'on vous propose aujourd'hui. Donc ça, c'est assez génial. On a également des ateliers mensuels. Donc, tous les mois, on vous propose un atelier en temps réel avec nous, hein, directement en ligne. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Vous allez pouvoir travailler avec nous. Ce qu'on fait, on fait vraiment, on vous montre ce qu'on fait concrètement. Donc ça, c'est extrêmement important. On a également une communauté qui grandit jour après jour, d'entrepreneurs qui sont là pour échanger et progresser ensemble. On a également intégré un plan simple et concret, étape par étape, qui vous permet d'apprendre à parler correctement aux intelligences artificielles et d'obtenir les résultats demandés. On a créé ce qu'on appelle une mind map, hein, c'est-à-dire un plan très simple, sans problème technique, sans jargon technique d'ailleurs, où on vous explique quelles sont les meilleures méthodes et comment parler à l'IA suivant votre problématique. Donc ça, c'est un outil qui est très très utile et très intéressant. On vous a également sélectionné, on a créé 100 top prompts, donc vraiment des prompts qu'on a optimisés, qu'on a améliorés nous-mêmes, pas des prompts que vous trouvez n'importe où gratuitement sur Internet et qui sont pour la plupart de très médiocre qualité. Là, on a vraiment optimisé pour chaque domaine des prompts très spécifiques qui vont permettre de mieux parler aux IA. Et bien sûr, on a un support dédié, hein, comme vous le savez, comme nos clients le savent, 7 jours sur 7, on répond très rapidement, souvent beaucoup plus rapidement qu'en 48 heures, mais c'est là, voilà. Le maximum, c'est 48 heures, si on est malade ou si on n'est pas en forme, mais on répond souvent beaucoup plus rapidement que ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous propose aujourd'hui, vraiment quelque chose de très complet, qu'on a travaillé depuis des mois, qu'on a travaillé en co-création d'ailleurs avec nos clients actuels, qu'on remercie, qui sont de plus en plus nombreux. Et le produit aujourd'hui est proposé à 199 € hein, pour 48 heures, au lieu de 299 €. Vous avez le lien en description ou en commentaire sur LinkedIn ou sur YouTube. On a hâte de vous voir nous rejoindre parce qu'on pense que ce produit est vraiment intéressant. Il est dans l'air du temps. Je pense qu'il est important de comprendre qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où il faut vraiment se former le plus vite possible pour éviter de passer à côté de cette révolution, quoi, très clairement. Et le but, c'est vraiment d'améliorer ce produit régulièrement. On a déjà fait beaucoup d'itérations. On écoute vraiment nos clients et on essaie de rajouter régulièrement des choses pour que ce soit optimal. Voilà, Grégoire, qu'est-ce que tu voulais
Très bonne présentation. Et ouais, l'idée de la formation, c'est en gros, on fait du consulting, intégration d'IA en entreprise sur mesure pour différentes entreprises. On n'a pas le temps, on peut pas prendre énormément de clients pour faire ça. Donc, l'idée, c'était de prendre tout ce qu'on applique avec les entreprises pour que vous puissiez, pour que vous puissiez l'appliquer dans votre entreprise. Donc, on vous donne tout ce qu'on sait faire et on a amélioré au fur et à mesure des retours qu'on a eus, des questions qu'on a eues et créé des automatisations en fonction des besoins qu'on a. Et voilà, l'idée, c'est vous avez un besoin, vous posez votre question dans la formation et on va être là pour répondre à votre besoin spécifique et si besoin, créer une automatisation pour ça.
C'est ça. Alors en plus, on a souvent la question qui nous est posée, oui, mais quel type de clientèle ? On a des clients qui sont plutôt dans les TPE-PME, hein, principalement. On a aussi quelques salariés, mais c'est souvent des entrepreneurs ou des entreprises. On a, comme vous pouvez le voir, hein, des startups, des gens qui sont dans la comptabilité, des gens qui sont dans l'artisanat, photographes. Vous voyez, on a vraiment des profils qui sont assez divers et variés. Souvent, pour cette offre-là, on est plutôt sur des TPE-PME, hein, des petites entreprises. Et le but, c'est d'être simple, sans jargon inutile, pas trop technique, et de vraiment expliquer simplement les choses pour que vous puissiez intégrer l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Le but, c'est quoi ? Trouver des clients, gagner du temps et optimiser vos process hein, pour aller plus vite, mieux. On a vu dans le grand débat hein, que c'est super important aujourd'hui de pouvoir utiliser les bons outils au bon moment pour pouvoir développer votre activité, tout simplement. Hein. Voilà un petit peu. Donc, l'offre aujourd'hui, comme on vous l'a dit, c'est 199 € au lieu de 299 €, donc pour 48 heures. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va rester, voilà, de toute façon, on sera connecté. Vous pourrez poser des questions en vidéo, hein, donc dans les commentaires de la vidéo et du live. N'hésitez pas, effectivement. Merci en tout cas à tous. C'était super intéressant. Je voulais remercier donc Philippe, Frédéric, les deux Frédéric d'ailleurs, Amélie, Nicolas, Fabien. Qui ont participé, qui sont en train de nous rejoindre. Jean également, merci à tous, c'était vraiment génial. Est-ce que tu voulais, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour finir un petit peu, Greg ?
Je pense que le plus important, c'est ce qui a été dit, je pense, par Frédéric, c'est d'utiliser l'IA au quotidien. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a créé la formation, c'est pour aider les gens à savoir comment utiliser l'IA au quotidien.
C'est ça.
Voilà, ça c'est le plus important. Moi je m'en sers tous les jours, toi aussi, et à tous les gens qu'on accompagne, bah, une fois qu'on l'a configuré, bah, on s'en sert au quotidien. Moi je m'en sers même pour mes trucs perso maintenant.
C'est ça.
Des recettes de cuisine, des idées de sortie, des trucs comme ça, je m'en sers. Et le fait le fait de s'en servir, bah, tout est beaucoup plus facile.
Clairement. Clairement. Bah écoute, Grégoire, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment génial. Désolé pour la petite coupure. Hein. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Voilà, mon ordi a fait des siennes. Mais c'est de la faute à Frédéric et à René, de toute façon, qui ont fait durer le plaisir. merci à tous, en tout cas. Et puis, on se rejoint de l'autre côté pour la formation. On a hâte de vous parler en privé. Merci à tous.
Merci à tout le monde et merci à Rémi d'organiser ces lives et pour ton énergie, ta pêche, ta patate. Et ça fait plaisir de parler d'IA et des entreprises avec toi.
Merci, merci. Ciao, ciao.
Bonne soirée.
À très vite.